Ô Dieu Père, nous sommes devant toi ce matin pour te louer et pour t'adorer à cause de ton amour. Et nous voulons te dire combien nous cherchons à ressentir le feu de cet amour en nous. Ce premier amour que nous avons connu lorsque tu as fait ton habitation en nous. Seigneur, nous sommes conscients de toutes les choses qui cohabitent avec toi. Et cette semaine, nous cherchons, Dieu, à en faire le tri, afin qu'il y ait de moins en moins de choses inutiles et que tu puisses nous habiter toujours plus. Que nous puissions te donner une place toujours plus grande. Que nos cœurs soient plus occupés de ce qui te concerne. Seigneur, tu nous as amenés à part pour nous parler, pour nous sonder, pour nous faire du bien. Et nous sommes là, disposés et te disons oui. Et nous te donnons accès à nos âmes pour qu'elles soient purifiées, pour qu'elles soient orientées aux choses éternelles. Merci, ô Dieu, de ces moments ensemble, de cette communion, de cet amour qui règne ici. Et nous te demandons pour que tu écartes de nos cœurs toute pensée qui ne serait pas de toi. Cela, nous te le demandons dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
On va ouvrir dans la première épître de Thessaloniciens au chapitre 1. Thessaloniciens chapitre 1. Et nous allons lire au verset 2. Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons là trois qualités qui sont des modèles pour l'Église, pour toute Église. Et l'apôtre Paul nous décrit là, en 4 ou 5 lignes, l'état d'une Église qui est maturée, qui est mature, qui est mûre dans le Seigneur. La première chose que nous voyons, c'est l'œuvre de leur foi. On vient de chanter ce cantique qui résume en Corinthiens 13, à la conclusion de ce chapitre, il est dit maintenant reste la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Eh bien, la foi, l'œuvre de la foi, est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre que l'Église discerne être de Dieu et qu'il accomplit. Comme on a vu hier, l'Église n'est pas un château fort, mais une armée. N'est-ce pas? Une armée qui se coordonne, qui s'organise pour annoncer le nom du Seigneur. Maintenant, quand nous lisons au début de Actes, au chapitre 2, verset 42, il est dit que l'Église était occupée à 4 choses. L'enseignement des apôtres, la communion des saints, la fraction du pain et les prières. Eh bien, ça c'est ce qui se passe le jour du Seigneur. Mais les autres 6 jours, l'Église travaille. L'Église ne chôme pas. Et beaucoup de personnes se disent, « Oh, mais l'Église, c'est pour dimanche. Hein? On va à 1 ou 2 services. Si on va à 1 service, on est bon. Si on va à 2, ben, on est excellent. » Et puis, on croit qu'on a fait notre affaire, qu'on a fait notre devoir. Mais on n'a jamais fini notre devoir. En fait, être un chrétien, c'est une affaire de 24 heures sur 24. C'est une vie qui ne cessera jamais. On ne cesse pas d'être un chrétien. On n'a jamais de vacances. On est toujours avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça ce que c'est que la vie éternelle. On ne l'apprend pas quand on veut ou quand ça nous convient. C'est une vie qui se vit tout le temps, dans toutes les circonstances. Et alors ces braves Thessaloniciens avaient compris cela. Et pour eux, dans l'Église, c'était très simple. Ils avaient compris que leur foi se voyait par des œuvres. Et l'évidence de la foi, c'était des œuvres, et pas n'importe lesquelles, mais les œuvres de Dieu. Et le Seigneur, quand on lui demande quelles sont ses œuvres, il va nous les donner, ça c'est clair. En fait, il y en a tellement qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Et j'aimerais ici que chacun d'entre nous puissions au moins prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Déjà, rien que commencer par ça, qu'on puisse le faire tous les jours, et lui dire, Seigneur, si tu me veux comme moissonneur, je suis prêt. Et même si vous avez beaucoup de travail, beaucoup d'obligations, de famille, d'assemblée, que sais-je, dites-lui, si vous me voulez, si tu me veux comme moissonneur, je suis prêt. Maintenant, j'aimerais pouvoir qualifier cette question de moissonneur. Comme Jésus a dit à ses disciples, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, c'était au printemps. C'était juste autour de Pâques. Alors, comment étaient les cultures à cette époque? Est-ce qu'il y avait une moisson qui était visible? Non. On voyait des tout petits brins des toutes petites pousses. Ça venait d'être semé. N'est-ce pas? Alors, les disciples, au moment même, ont probablement mal compris. Ils se sont dit, mais de quelle moisson est-ce qu'il parle? N'est-ce pas? Et Jésus, lui, il voit les choses en avance. Notre Seigneur, il est prêt en avance. Il voit ce qui va arriver. Et quand il voit ses petites pousses, il voit une moisson, et il n'y a pas assez d'ouvriers pour la prendre. Alors, il y a un espace de temps entre la semence et la moisson. Et il faut être prêt pour cette moisson. C'est-à-dire avoir suffisamment de gens formés pour cela. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Premier exemple. J'étais à Montréal visiter nos chers amis du Sembec. Et pour ne pas les nommer, c'était Michel Habib et François Picard. Vous en avez entendu parler. Eh bien, ces braves frères m'ont dit, écoutez, avec nos projections, il nous faut trouver dans les 10 prochaines années 100 pasteurs. C'est un minimum de 100 pasteurs formés. Et ça, c'est seulement pour Stenbeck. Ensuite, on a été avec François Bergeron, on a été faire un message. C'était à Granby. Et le directeur de l'Église de Dieu me dit, on vient de commencer une école biblique parce qu'il nous faut au moins 100 pasteurs dans les quelques prochaines années. Et si on n'a pas d'école biblique, on n'arrivera jamais à les former. On a des églises qui sont énormes et il faudrait qu'elles s'essaiment pour qu'on les rende plus gérables et qu'on fasse un meilleur travail. Donc il nous faut beaucoup, beaucoup de pasteurs. Maintenant, est-ce qu'un serviteur de Dieu est un pasteur nécessairement? Non. On est tous des serviteurs de Dieu. Votre travail, votre lieu de professionnel n'est rien d'autre qu'un champ de mission, tout simplement. Et un champ de mission où on agit par les actes et non pas tellement par les paroles. Mais il y a d'autres endroits où on peut avoir, disons, un ministère de parole, un ministère parlé. Mais on peut toujours avoir un ministère d'amour, n'est-ce pas? On a parlé de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et si aujourd'hui nous avons une société qui a besoin d'espérance, eh bien c'est bien notre société occidentale. Après les événements du 11 septembre, il y a eu une dépression, un découragement, une colère qui s'est installée dans le monde occidental qui n'est pas saine. Et notre réponse, c'est Jésus-Christ et l'espérance de la gloire. On est d'accord? Oui. Et ils ne le seront pas à moins que nous ouvrions notre bouche et que nous commencions à parler. Bien sûr qu'on n'aura pas tous des clients, mais ça fait rien. On continue. Ça fait partie du nombre. Le plus de personnes à qui on parle, le plus il y aura de oui. Je me rappelle, mon père était un homme très sage. Et il me disait, tu sais, chaque fois que tu entendras un frère ou une sœur dire « Oh, on vit dans les derniers temps, le Seigneur est proche, il nous faut l'attendre. » Et puis, rien de plus. Il me dit, celui-là, je te garantis, il n'a jamais amené une âme au Seigneur. S'il y a une chose, que cette impression que le Seigneur est proche, que ce sentiment qu'il est à la porte et qu'il va venir, devrait faire en nous, devrait créer en nous, c'est d'être des évangélistes. C'est d'être là, à la brèche, et de pouvoir annoncer la parole à autant de personnes qu'on peut le faire. Maintenant, je vais vous poser une question toute simple. Par où est-ce que je commence? Comment est-ce que je deviens un témoin? La première chose, c'est d'écrire le témoignage de votre conversion. Quels ont été les événements qui vous ont amené à, d'abord, à saisir que Dieu existe, que la Bible est sa parole de Dieu, qu'il y a une demande qu'il nous fait ou il nous offre, et enfin, quels sont les événements qui m'ont amené à comprendre que j'étais perdu, que j'avais besoin d'être sauvé, et puis qu'est-ce qui s'est passé après. Mais ça, ce témoignage, à moins que vous l'ayez pas écrit quelque part, et que à moins que vous y travailliez dessus, mais vous n'avez pas les outils pour rendre témoignage. Mais bon, le témoin, il parle de ce qu'il a vécu. Alors, un témoignage de votre conversion, c'est ce que vous avez vécu. Et les gens, ils veulent entendre ce que vous avez vécu, ce qui est vrai de vous. La doctrine, ça, on le fait plus tard. Mais ce qui est important, c'est de savoir le vécu. Est-ce que vous avez eu des doutes? Eh bien, ça fait partie du vécu. Est-ce que vous avez fait des fautes dans votre vie chrétienne? Ça fait partie du vécu. Est-ce que maintenant, vous pouvez vous dire que vous êtes un bon chrétien? Ça fait partie du vécu. Et ces choses doivent être écrites. Pourquoi? Parce que Satan déteste quand on écrit quelque chose. Il n'aime pas la parole de Dieu quand elle est écrite. Il n'aime pas le témoignage des saints quand il est écrit. Pourquoi? Parce que c'était le reproche que Jésus lui a fait dans le désert, à chacune des tentations. Il a dit, il est écrit. Et du moment qu'on écrit, il est fâché. Alors, fâchons-le. N'allons pas l'épargner. On est d'accord. Alors, commencez par faire ça. Et vous savez, vous serez surpris de voir les opportunités qui vont s'ouvrir à vous quand vous aurez ce simple outil de l'histoire de votre conversion. Les gens veulent savoir. Aujourd'hui, les gens ont soif de voir quelqu'un qui connaît Dieu. Non pas qu'ils connaissent des théories, non pas qu'ils savent quels sont les 144 000 témoins, ça n'a aucune importance. Mais des gens qui connaissent Dieu, qui ont une relation avec lui, ça, ils veulent savoir. Et c'est le sel de la terre. C'est ça qui est le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les lumières du monde. Vous êtes cette ville sur la colline qui ne peut être cachée. N'est-ce pas? Alors nous, comme chrétiens, si on s'enfouit dans un buisson, on fait la même chose que ce serviteur qui avait enfoui son trésor. N'est-ce pas? Votre trésor, c'est quoi? C'est votre vécu. C'est ce que vous avez vu du Seigneur. Comme le David dit, venez goûter que le Seigneur est bon. Bienheureux celui qui se confie en lui. Il invite les gens à goûter la bonté du Seigneur. Eh bien, on peut inviter les gens à goûter la bonté du Seigneur. C'est pas terriblement compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de désespoir et de découragement, de dépression, de gens qui travaillent comme des fous et qui semblent arriver à nulle part. Pour vous dire, j'ai un cher ami, il est chrétien, sa femme aussi, ses fils aussi. Donc on se dit, voilà, quelle belle famille chrétienne. Et puis ça va vraiment être une famille avec des enfants, des petits-enfants, enfin des petits-enfants, et puis ça va être une belle famille qui va pouvoir s'étendre. Et cet homme, il travaille, et il travaille, et il travaille, et il travaille continuellement. Il rend ses témoignages, mais je lui dis, écoute Joe, ça suffit pas de faire ci, de construire ça, etc., etc. Il faut que toi, tu t'impliques à parler de Jésus aux gens. Parce que si tu ne parles pas de Jésus aux gens, eh bien, qu'est-ce qui restera après ta mort? N'est-ce pas? Quel fruit tu amènes au ciel? C'est tellement important que Jésus te construise toi comme témoin de sa grâce et de son amour pour ta vie. Ah oui, oui, il faut que je... t'as raison, Marc, tu as raison. Il faut que je fasse ça, je vais m'en occuper, etc. Il y a 2 semaines, j'entends qu'il est à l'hôpital avec un cancer, c'est terminal. Ouais. Et il y a 3 fils qui ne sont pas encore mariés et qui ont vraiment besoin d'un père. Moi, mon cœur va là-bas, vers lui, sa femme, ses fils. Je me dis, mais ils ont besoin de protection, ces pauvres. Ils sont vraiment en difficulté. Et c'est pour vous dire, ne négligez pas le don de grâce qui est en vous et que vous avez reçu par l'Esprit. Utilisez-le pour le royaume de Dieu. Bon, 2e chose qu'on voit avec ces frères. Le travail, donc, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour. On a parlé de l'amour dans ce cantique, et c'est l'amour agapé. L'amour agapé n'est pas du tout l'amour qu'on connaît sur le niveau humain. L'amour agapé, c'est un amour qui vient de Dieu, c'est un amour altruiste, c'est-à-dire qui se donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Et il y a des personnes qui sont prédisposées à être comme ça. Elles aiment donner sans jamais attendre quoi que ce soit des autres. Par exemple, le don de serviteur, qui est un don spirituel, se donne, sert continuellement, mais il n'attend rien en retour. Toutefois, un don de serviteur a besoin d'être encouragé, toujours. Parce qu'il y a des limites. Il faut que l'amour de Dieu revienne en lui pour qu'il puisse continuer à servir. Et ça, c'est vrai de tous les dons. Tous les dons ont besoin d'être encouragés, tous. Donc, quand on parle ici du travail de l'amour, on est au verset 3. Travail de votre amour, le mot travail est un mot qui parle de l'accouchement. Donc c'est un travail qui est pénible. C'est pas un travail simple, c'est pas un petit boulot. C'est un gros travail. Un travail qui implique toute la personne. Peut-être pour une période limitée, peut-être pour une longue période. Mais il y a là un travail d'amour, en anglais a labor of love, c'est la même chose que le mot labor veut dire le travail de l'accouchement. Eh bien, c'est un un travail qui demande toute la personne. Alors, on revient de nouveau à cette idée, n'est-ce pas, à cette perspective d'être des moissonneurs, c'est-à-dire d'amener les personnes à recevoir Jésus-Christ, mais c'est un travail qui va prendre toute votre attention, tout votre être, toute votre concentration. Parce que c'est tellement important, tellement délicat cette chose-là. N'est-ce pas? Ça ne suffit pas d'aller vers les gens et de leur dire « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Ça ne marche pas, ça. Ça détruit plutôt les possibilités qu'autre chose. Il y en a qui disent « Oh, mais nous n'avons que besoin de semer la parole. Alors semons, 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 semons. » Et puis on met des petits papiers partout. Ça ne marche pas, ça. Les gens n'achètent pas ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir Dieu. Et ils ont le droit de voir Dieu. Ils ont le droit de voir Dieu en nous. Alors, il y a un travail d'amour. Et quand Jésus dit, je vous laisse un nouveau commandement, c'est que vous aimiez les uns les autres, ce n'est pas une sentimentalité facile. De s'aimer les uns les autres, c'est un travail qui est lourd. Parce qu'il faut, comme on dit dans le séminaire, on n'aime pas le Seigneur plus que la personne qu'on aime le moins. On n'aime pas le Seigneur plus que la personne qu'on aime le moins. Parce que si je dis à mon frère que j'aime Dieu, et puis que je le déteste, je suis un menteur, n'est-ce pas? Donc le dénominateur commun est la personne que j'aime le moins, que j'aime quand même, mais que j'aime le moins. Eh bien, le Seigneur, je ne l'aime pas plus. Alors, comment est-ce que je vais faire pour aimer une personne que je n'aime pas? Hein? Bonne question. La parole est claire à ce sujet-là. Priez les uns pour les autres. Je crois que tous ceux qui ont été mariés ont passé par cette période après un certain nombre d'années où tout d'un coup, ils se regardent dans le miroir et ils se disent « Mais est-ce que j'aime mon mari? Est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que vraiment... » Ils sentent qu'il n'y a plus d'étincelles qu'on avait avant. Ils sentent que c'est passé où il y a, je sais pas, il y a un froid, où il y a des choses, on ne se parle plus, on se communique mal, on est engagé à gauche, à droite, on essaye, mais vraiment, il n'y a plus le naturel qu'on avait avant. D'où est-ce que ça vient? Frères et sœurs, c'est dans le Corinthiens 7, c'est la prière, n'est-ce pas? La prière ensemble, entre mari et femme, priez ensemble, et votre amour reviendra tout seul. Vous aurez cette attirance l'un vis-à-vis de l'autre. Ça viendra tout seul. Mais priez les uns l'un avec l'autre. Toujours. Et si vous, mesdames, pensez que les prières de votre mari ne sont pas justes, ça n'a pas d'importance. Ils prient. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Et vous priez aussi, à haute voix. Même si vous ne vous sentez pas prier, priez quand même. C'est tout ce qui compte. Votre mari a besoin d'entendre vos prières. Et vous, votre femme a besoin de vous entendre prier. Et vous savez, au début, c'est dur quand on va revenir à la prière. Parce que, bon, il y a des tensions et tout, des pressions, et puis on suit son sentiment, ou on a pitié de soi plutôt que de se ressaisir et de prier. Non. Mettons du temps à part, prions. Et vous savez, ça vient vite, hein. Quelques jours, et voilà, tout d'un coup, il y a des tas de choses qui commencent à changer dans nos attitudes. Que surtout quand il y a des gens qui font pression sur nous, eh bien, prions pour eux. Après tout, la pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens ont des besoins. Est-ce que nous, on n'est pas des gens pour armer de l'amour du Seigneur, pour justement les aimer? N'est-ce pas? C'est logique. Alors, le ministère de l'Église, c'est dans l'amour. Et ça, c'est clair. Il y a des églises qui l'ont très bien compris, il y en a d'autres qui ne l'ont pas compris. Mais, vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, vous voulez avoir tout un fruit qui demeure, c'est en investissant de votre cœur, de votre temps, et c'est en laissant de côté un nombre de choses qui n'ont pas besoin d'être, qui sont moins importantes, pour avoir ce fruit. Tous ceux qui sont à la campagne, ils savent très bien, si on plante simplement les légumes et qu'on nettoie pas la plate-bande, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les mauvaises herbes iront plus rapidement et les légumes n'auront plus de place pour grandir. C'est la même chose dans tout. Il faut focaliser sur les choses. Il faut se concentrer. Eh bien, c'est la même chose ici. Le travail d'amour est la manière avec laquelle nous amènerons les personnes à la connaissance de Christ. Troisième outil spirituel, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons une notion directe avec le retour du Seigneur, dont on parle, finalement on y est. L'espérance, la fermeté dans l'espérance. Et pourquoi vous, les chrétiens, faites des choses pareilles? Parce que nous attendons notre Seigneur Jésus. Voilà la réponse. Parce que nous attendons notre Seigneur. C'est pas parce que nous voulons faire du bien aux autres. C'est pas parce que Dieu nous a dit de faire ceci ou faire cela. Non, parce que nous l'attendons lui. C'est là la relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, nous l'attendons, nous savons qu'il va venir et nous faisons ces choses parce que nous voulons qu'il soit honoré par notre vie en faisant ces choses. L'espérance. Le mot espérance est quelque chose de merveilleux. Nous n'avons pas ce mot en anglais. En anglais, le mot espoir et espérance, c'est le même mot. Mais, en grec, il y a espoir et espérance comme nous avons en français. Or, l'espérance n'est pas de l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose qu'on espère qu'il va venir, mais c'est pas sûr qu'il vienne. L'espérance, c'est une chose qui va venir et on est certain qu'elle sera là. Comme par exemple quand on attend un train. Hein? Bon, ben il a du retard ce train, on a l'espérance qu'il va venir. Pourquoi? Parce qu'il viendra. Ça on peut être tranquille, c'est organisé, ça viendra, il y a eu un petit peu une neige sur les voies, alors bon, il a du retard. Mais autrement, on a l'espérance que ce train sera là. Eh bien c'est la même chose avec notre Seigneur. Il tarde à venir, eh bien on a une espérance qui est ferme et qui est sûre. Lisons certains versets dans notre Bible. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. On les connaît bien, ces versets. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, sans sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts, pour une espérance vivante. Attention, c'est pas pour une espérance théorique, c'est une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux, et qui vous est gardé, à vous qui êtes gardé en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé, quand? Dans les derniers temps. On est là, au retour du Seigneur, voyez-vous? Alors, on continue, vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange et de gloire et d'honneur, quand ça? Lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, il va venir. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant vos prix de votre foi, le salut de vos âmes. Verset 13. C'est pourquoi affermissez vos pensées, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Quand Jésus viendra, il révélera cette grâce d'une manière sublime. Et cette grâce, elle est déjà avec nous, elle est le fondement de notre espérance. Cherchons un autre verset. Colossiens 1, 27. Pourquoi est-ce qu'on cherche ces versets? Parce que je veux vous donner un sentiment de la place de l'espérance dans la parole de Dieu. Colossiens 1, 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. On ne peut pas avoir Christ en soi sans l'espérance de la gloire. Alors, les deux choses sont totalement unies. Enfin, c'est une chose. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce serait terrible de croire en un Christ sans espérance. D'aimer un époux sans que jamais il vienne. Ce serait bizarre, hein? D'avoir un mariage et puis l'époux n'arrive jamais. Mesdames, comment vous réagiriez à cela? Vous le mettez à chez lui. C'est logique. Bon, eh bien, notre Seigneur ne va pas nous faire attendre pour toujours. Bien. Tite 1. Tite chapitre 1. C'est un bon petit exercice de ça pour vous, pour savoir si vous savez où sont vos livres. Tite chapitre 1. Versets 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et de Dieu à la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquels reposent sur quoi? Sur l'espérance de la vie éternelle promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Par le Dieu qui ne ment pas. C'est, je crois, la seule place dans l'Écriture où Dieu est appelé comme ça. Le Dieu qui ne ment pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Dieu de vérité, ça on l'a plusieurs fois, mais le Dieu qui ne ment pas, c'est la seule fois qu'on l'a. Même livre, Tite 2, versets 11 à 13. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur, Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. De nouveau, nous voyons l'importance de cet avènement de notre Seigneur Jésus. On continue. Chapitre 3, versets 5 à 7. Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Il ne s'agit pas de la vie éternelle dont il s'agit dont nous lisons dans Jean 3,16, mais de la vie avec Christ dans les lieux célestes en Christ. Cette vie que nous voulons vivre pour toujours. Philippiens 3, versets 20 à 21. Philippiens 3, versets 20 à 21. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Là, on devient encore plus précis, hein? Ensuite, on continue. 2 Thessaloniciens 2, 16. 'Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre, en parole qui soit bonne. » Voilà une doxologie ou une exhortation doxologique qui est une bénédiction au fond que l'apôtre prononce sur cette église de Thessalonique. Continuons dans Éphésiens 4, au verset 4, ça va être notre dernière écriture dans ce sujet. Éphésiens 4, verset 4, qui dit ceci: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Celle de votre vocation. Bien oui, nous avons été appelés à l'espérance. Nous n'avons pas besoin de craindre la mort, nous n'avons pas besoin de craindre l'homme, nous n'avons pas besoin de craindre les conséquences de notre prédication. Pourquoi? Parce que déjà tout est réglé. Tout est fait. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors vous pouvez vous imaginer comme on est léger en tant que chrétien dans ce témoignage. On n'a pas besoin de se soucier de ci ou de ça ou de ci ou de ça. Aimer son prochain et puis lui faire part de l'évangile de la grâce. Que Dieu les aime. Que Dieu les aime. Et il y a plusieurs personnes parmi nous qui ont une grande expérience à ce sujet-là. Et c'est bien. Alors, n'est-ce pas, quand il nous a dit de veiller, veiller, c'est pas seulement ne pas dormir. C'est pas ça que le Seigneur nous dit. Mais veiller, c'est de faire les choses importantes d'abord. Voilà ce que c'est de veiller. C'est d'avoir conscience de l'éternité, avoir conscience que l'humanité s'en va à sa perte, mais que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il nous engage dans ce travail. Et c'est là où, étant fidèles, nous trouvons notre espérance. Maintenant, puisque nous parlons du retour du Seigneur, j'aimerais pouvoir adresser une question. Et c'est une question qui a fait couler énormément d'encre dans les années précédentes. Et bon, il y a eu des tests qui ont été très, très bien faits, et d'autres qui ont été tout aussi bien faits, et puis finalement tout le monde est confus. Et je crois que c'est une chose qui va, disons, nous encourager, parce que bien souvent on se pose la question, surtout quand on voit que le Seigneur semble tarder à venir. Est-ce que le Seigneur va tarder? Non, il ne va pas tarder. Je vous promets, une fois que la dernière âme a été sauvée, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est impatient. Il nous aime. Il nous veut avec lui. C'est clair. Il va pas attendre une seconde de plus. Alors, quand est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir avant, pendant ou après les grands jugements que nous lisons dans l'Apocalypse? Et là, il y a plusieurs thèses. On n'aura jamais le temps de les voir toutes les trois. Et il y en a encore d'autres. Bien sûr, il faut vendre des livres, hein. Mais mais je crois que si nous regardons dans la parole de Dieu avec simplicité, nous pouvons voir que tout d'abord l'Église a commencé dans les tribulations. Ça, c'était une chose presque immanquable. Il y avait là un mouvement énorme qui transformait tous les motifs des gens, de beaucoup de gens. Ça compliquait le gouvernement, ça compliquait la société, ça compliquait beaucoup de choses. On s'attendait à certaines choses, mais elles n'arrivaient pas, c'était d'autres choses qui arrivaient, les gens ne savaient pas comment gérer tout ça. C'était très très difficile pour beaucoup de personnes. Et on ne se rend pas compte que nous, comme chrétiens, on cause des tracas aussi dans le gouvernement. Et alors, les gens là-bas, ils se disent, ah, mais si on pouvait simplifier tout le monde, et puis avoir tout le monde au même niveau, qui réagisse à la même chose, qui pense à la même chose, au moins, on n'aurait pas autant de maux de tête, n'est-ce pas? Mais voilà, nous serons toujours dans un sens des révolutionnaires. Toujours, toujours. Parce que le chrétien se distingue toujours de la société par l'espérance qui habite en lui, par le Seigneur qui habite en lui. Et pour moi, j'ai aucun souci si au Québec, on nous interdit d'avoir des églises. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si le gouvernement nous interdit d'avoir des églises? On va continuer de se rassembler. Tout simplement. Qu'ils viennent nous chercher. Hein? Bien sûr qu'on va le faire. Pourquoi? Parce que on ne veut pas le faire pour défier le gouvernement, mais il y a un choix d'autorité. On a un choix à faire. Qui voulons-nous obéir? On va respecter les autorités, mais on ne va pas respecter ce que est leur décret ou leur loi, parce qu'elles sont fausses. Elles ne sont pas bonnes. Mais ça n'empêche pas que je peux respecter ces gens. Je peux les aimer aussi et prier pour elles, n'est-ce pas? Et surtout pas me plaindre. Il y a un verset qui parle de ne jamais se plaindre des autorités. Jamais porter atteinte aux autorités. parce qu'elles sont de Dieu, même celles qui sont fâcheuses. Donc nous voulons respecter ces autorités et les encourager. En fait, l'Église devrait être quoi vis-à-vis des autorités? Oui, modèle, mais enfin, on est quand même dans des poursuites différentes, hein. Je crois que le chrétien, il devrait être le soutien de prière vis-à-vis de chaque personne en autorité. Et avoir ce contact respectueux et surtout reconnaissant pour le travail qu'ils font. On se plaint toujours des autorités. Arrêtons de nous plaindre. Soyons reconnaissants parce qu'elles sont là. Et sachons leur dire merci. Parce que c'est un boulot ingrat. Je peux vous dire, c'est un boulot ingrat. Eh bien, sachons respecter ces autorités parce qu'elles sont de Dieu. Mais si ça arrive à ce qu'une autorité exige quelque chose que, comme chrétiens, nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons très bien dire à cette autorité, voilà, est-ce qu'il y aura un moyen de pouvoir, pour moi, d'obéir à Dieu sans vous offenser? Et s'il n'y en a pas, eh bien, il faut prendre des conséquences. N'est-ce pas? Mais on le fait avec respect. Dans le séminaire chrétien, on a tout un long chapitre sur l'autorité et comment gérer notre attitude vis-à-vis des autorités, qu'elles soient dans la famille, dans l'entreprise ou dans le gouvernement. Ça, c'est tellement important. Vous voyez? Bon, on passe par là-dessus. Mais cette question de l'enlèvement de l'Église est très importante. Parce que c'est pas qu'on veut éviter la souffrance. Nous avons vécu 200 ans à peu près comme Église sans grosse persécution, disons du moins dans le monde occidental. Mais il ne faut pas croire que dans d'autres pays, c'est sans persécution. En fait, aujourd'hui, l'Église n'a jamais été plus persécutée qu'elle l'est. Vous allez dans environ une centaine de pays et l'Église est persécutée. Et dans certains pays, c'est avec acharnement. Donc, les chrétiens souffrent aujourd'hui. Nous ne nous faisons aucune illusion. Lisons dans Apocalypse au verset 3, au chapitre 3. Apocalypse au chapitre 3. Il y a là une petite église, une des sept églises qui s'appelle Philadelphie. Et voilà ce que l'ange de l'église de Philadelphie dit. Elle dit ceci. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Une description extraordinaire de notre Seigneur. C'est au verset 7. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas nié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Donc voilà une lettre qui a été écrite à l'église de Philadelphie. Maintenant, juste pour ceux qui ne connaissent pas le contexte de ces chapitres, nous avons là sept lettres qui ont été écrites dans ce livre par l'apôtre Jean. Mais en fait, elles ont été écrites par le Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui les a inspirées. Et ces lettres ont été écrites à sept églises qui ont chacune d'elles une situation différente. Et il y en a qui sont loués pour leur travail ou pour ce qu'elles ont, mais
il y a aussi, disons, des choses que Jésus reprend. Et la seule qui n'a pas vraiment de reproche, ou disons de choses à corriger, c'est celle de Philadelphie. C'est la seule église où tout est positif. Mais ils ont été persévérants. Et parce qu'ils ont été persévérants à l'heure de l'épreuve, le Seigneur leur épargnera les souffrances de la fin du monde. Et alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur fait aux autres églises, celles qui ont des choses à changer? Le Seigneur les exhorte à se repentir. Et 5 de ces églises reçoivent cette injonction importante. Repens-toi. Repens-toi. Et j'aimerais vous encourager et encourager vos églises à se repentir. Quand est-ce que vous avez eu un service de repentance dans votre église ou dans la famille ou personnellement? Vous avez fait une liste de choses sur papier. Vous avez écrit les choses desquelles vous voulez vous repentir. Mais donc, qu'est-ce que c'est la repentance? C'est pas dire, Seigneur, écoute, moi je me mets trop en colère, je te demande pardon. Ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est voir ce qui ne glorifie pas Dieu, et puis se dire, je ne veux plus de cet état de choses. Donc, on va faire demi-tour. Il va y avoir conversion maintenant. Il va y avoir un changement. Je vais aller dans cette direction, maintenant je vais dans cette direction. Non pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Et je prends par la foi cette décision d'arrêter cette chose qui est morte et maintenant d'embrasser une chose qui est vivante, un chemin qui est vivant. Parlons de chemin. Il y a en nous des chemins de mort. Mais ces chemins ont un contour, n'est-ce pas? Et on va oublier ce chemin de mort pour maintenant mettre notre attention sur le chemin de la vie et d'apprendre du Seigneur comment construire ce chemin de vie en nous et en implorant pour sa grâce. Et ça, c'est la repentance. Maintenant, pour nous encourager à la repentance, une fois qu'on a pu voir un chemin de mort dans notre vie, écrivons tout ce qui s'est passé, toutes les conséquences de ce chemin de mort. Qu'est-ce que ça a causé? Quels ont été les dégâts en moi, dans les autres, etc. au cours des années? Qu'est-ce que ça a fait? Vous savez, on est des gens tellement curieux. On essaye de faire quelque chose ou on fait quelque chose et puis ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose dans l'espoir que ça va marcher cette fois-là. Ça ne marche pas de nouveau. Alors on le refait de nouveau. Et on continue à faire toujours les mêmes choses dans l'espoir que ça va peut-être changer. Non, si quelque chose ne marche pas, c'est la preuve qu'il faut changer. Il faut changer d'approche. C'est peut-être pas la chose à faire, c'est peut-être une autre chose à faire, mais changeons l'approche. Il n'y a aucune honte de faire une faute, mais il y a une honte à persévérer dans sa faute. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, soyons sages devant ces choses, et puis sachons nous repentir. Repentir, ça veut dire faire demi-tour. Faire demi-tour. Alors faisons demi-tour dans les choses qui ne marchent pas. Et arrêtons de persévérer sur des chemins de mort. Adoptons les chemins de la vie et nous trouvons le Seigneur. N'est-ce pas? Alors, nous sommes maintenant dans Apocalypse 3 au verset 10 et nous voyons que cette Église a emprunté des chemins de vie parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. En moi, je te garderai, moi aussi, de l'heure de l'épreuve. On n'est pas un Philadelphien comme ça. C'est un état d'âme, l'église de Philadelphie. Il y en a beaucoup qui sont dans l'église de Laodicée, n'est-ce pas? Ils sont ni chauds, ni froids. Ni bouillants, ni froids. Ils sont tièdes. Et là, il y a tout un traitement qui doit passer, par lequel doit passer, dans la repentance. Et il y a aussi une victoire dans la repentance. Il y a des promesses à celui qui vainc, qui vaincra. Et vaincre, c'est accepter ma responsabilité de me repentir. C'est ça, vaincre. Et alors, c'est pas une chose qui est facile, on n'aime pas faire ça. Mais, hey, c'est comme une maison, hein. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire, hein. Mais il faut les faire quand même. Quand je vois notre cher ami, M. Ferlin, le matin, qui court de toilette en toilette pour tous les désinfecter, c'est pas quelque chose qu'on aimerait faire. Mais il est le directeur de ce camp, et c'est quand même lui qui le fait. Il va pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Ben, ça se ferait jamais. On est d'accord? Alors, il y a des choses qui sont qui ne nous viennent pas naturellement. Mais lorsqu'on se rend compte des bénéfices de certaines choses que le Seigneur nous demande, le bénéfice de la repentance, c'est énorme, le bénéfice de la repentance. On le ferait tout le temps. On aurait une attitude de repentance. Et je vous promets, un chrétien qui a une attitude de repentance, il a aussi la grâce qui coule de toute son attitude et de tout son ministère. Parce que la repentance amène l'humilité. L'humilité invite la grâce. Et la grâce est une puissance. Et la grâce amène le discernement de la volonté de Dieu. Nous voulions pouvoir savoir, oh Seigneur, montre-moi ta volonté, montre-moi ta volonté. Pourquoi? Oh, ben, je veux savoir si je veux la suivre ou pas. Le Seigneur n'est pas notre laquais. Il n'est pas notre serviteur. Il est souverain. Et avant de demander sa volonté ou de chercher sa volonté, nous devons être dans l'attitude de celui qui est serviteur. Et le procédé qu'il nous donne, c'est repentance, qui invite l'humilité, qui invite la grâce, qui invite le discernement. C'est quatre choses. Bien. Ayant vu cela, nous avons là donc cette promesse, la persévérance en moi. La persévérance en moi. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, une des choses qui est essentielle, c'est de faire le silence en soi. Nous avons tous des voix très fortes, intérieures, des voix intérieures. Et la plus forte, c'est la nôtre. C'est nos pensées, c'est nos opinions. C'est ce que nous croyons être vrai. Et Dieu nous dit, arrête de parler pour un moment. J'ai quelque chose à te dire. Mais pour ça, tu dois être tranquille. Et créer ce silence intérieur n'est pas une petite chose. Ça prend du temps. Et c'est une chose que nous pouvons demander à Dieu, c'est qu'il nous guide dans le développement de ce silence intérieur. Mais ça prend du temps. Mais finalement, quand on goûte la valeur de ce silence intérieur, c'est comme quelque chose qu'on veut toujours. C'est comme le vin nouveau, on en veut toujours plus, parce que c'est tellement frais, c'est tellement valable, que tout passe après. On aime le silence parce qu'on entend la voix de Dieu. Et on aime cette voix. Dans le silence, on peut voir la vérité sans douleur. C'est quand il y a toutes sortes de voix qui confliquent, qui argumentent, que toute vérité est dure. Mais dans le silence, on accepte. On accepte. Bien. Donc, on voit ici un verset qui nous montre que le Seigneur va épargner cette église de Philadelphie de l'épreuve avant, donc il va s'en occuper avant qu'il y ait les jugements sur la terre. On va retourner dans 2 Thessaloniciens. Il y a là un verset qui est aussi intéressant et qui parle de la même chose.
2 Thessaloniciens chapitre 1 et au verset 7. Je commence au verset 6 pour contexte. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Nous avons là deux choses, mais la première que nous voyons, c'est cette expression qui dit ceci: il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants. Donc, il semble que apparaître que notre repos précédera ses jugements. Maintenant, on pourrait réagir comme ça, on pourrait se dire, oh, ouf, au moins maintenant, le Seigneur a pensé à nous, on n'aura pas besoin de souffrir. Ça, c'est bien. Et puis, on est tout content. Ça, le Seigneur n'a jamais vraiment épargné la souffrance à l'Église. Et encore ça, il ne faut pas oublier. Mais souvenons-nous ceci, c'est que quand le Seigneur enverra son jugement, il y aura là un autre évangile qui sera prêché. Ce qu'on appelle l'évangile du royaume. C'est-à-dire un évangile qui n'amènera pas des âmes au Seigneur comme nous avons été amenés à lui. N'est-ce pas? Ce sera un évangile qui cherchera, si vous voulez, des hommes et des femmes pour tenir ferme pour la souveraineté de Dieu, pour la souveraineté de Christ sur la terre. Et ces gens seront rejetés, sans aucun doute. Mais ils n'auront pas cette onction spirituelle que nous connaissons. Ils auront l'aide du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre comme il l'est maintenant en consolateur. Donc ce sera une expérience spirituelle beaucoup plus dure. Mais elle sera là, n'empêche. Elle sera très forte, très très forte dans toute la terre. Tout le long de la tribulation, elle sera là. Mais nous, en attendant, nous n'avons pas besoin de cet évangile du royaume. Pourquoi? Parce que nous avons l'évangile de la grâce. Alors, il y a là un espace où l'Église sera recueillie par le Seigneur, comme on a lu hier et avant-hier. Où l'Église sera recueillie vers le Seigneur pour être avec lui, toujours, et pour l'assister dans son travail. Maintenant, on pourrait amener beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, la transformation de nos corps, ou disons, le nouveau corps qu'on va recevoir, va être encore comme celui de Christ, c'est-à-dire qu'il ne sera pas assujetti aux lois de la terre. Ce sera un corps totalement différent qui fonctionnera sous d'autres lois. Donc, nous n'aurons rien en commun avec les habitants qui seront sur la terre, même après le jugement. Mais nous aurons un rôle, une fonction sur la terre qui sera claire. Mais nous serons en communication avec notre Seigneur, toujours, toujours. Donc, il y a là un événement qui va se passer. Et il va appeler son Église à sortir de ce monde pour après racheter la terre de Satan, c'est-à-dire la reconquérir. Et c'est logique que le Seigneur ne va pas reconquérir la terre avec son épouse sur la terre. C'est tout à fait logique. On n'aurait plus de ministère sur la terre en tant qu'Église. Parce que la prédication du royaume, de l'évangile du royaume, se fera par d'autres personnes, en particulier par Israël. Ce seront eux qui vont faire ce travail. Et alors, dans le règne,
nous serons tous ensemble, c'est-à-dire ce qui restera de la terre comme habitons, et nous et le Seigneur. Bien. Je continue, et on va seulement regarder une ou deux petites choses. En plus, lisons de Romains 11. Un événement qu'on peut voir encore de nos jours. Verset 25. 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un durcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. On disait ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dans quoi? Dans l'expérience du salut, il y a un endurcissement en Israël. Et on le voit, cet endurcissement, il est toujours là. Donc, le Seigneur n'est pas encore revenu. Et il faudra le coup énorme de l'enlèvement de l'Église pour que Israël se réveille. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, eh bien, il y aura un retour de leur cœur. En tout cas pour beaucoup. Alors, bien sûr, l'évangile du royaume est un autre évangile. C'est un évangile qui est beaucoup plus axé sur les œuvres. Et nous voyons cela, par exemple, dans le 12e des Romains, tournez la page, au verset 14, quand il est dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Il y a toutes sortes d'exhortations là qui sont données. C'est pas que ce soit pas vrai pour l'Église, bien au contraire, c'est tout à fait vrai pour l'Église. Mais il y a là une pratique d'œuvre. Ce sera un évangile d'œuvre, n'est-ce pas, où celui qui suit le Seigneur fait ses œuvres. Il les fait par la foi, mais il les fait dans la conscience que Dieu les approuve. Par exemple, le sermon sur la montagne a été donné à Israël dans une économie d'Israël. Bien sûr qu'on peut le sortir et puis en prendre les tenets et puis les mettre dans l'église, c'est tout à fait clair. Mais sachons reconnaître que c'est un évangile qui est pour le royaume et que cet évangile sera en particulier applicable à ce moment-là. Cela n'exclut bien sûr jamais l'église de ne pas suivre ces tenets, au contraire elle devrait exceller. Mais à l'époque des grands jugements, ça va être bien plus difficile d'aimer ses ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Parce qu'il y en aura beaucoup. Ce sera un déchaînement contre Dieu comme on n'a jamais vu. Bien, on pourrait voir encore quelques versets sur cette vérité. Mais sachons ceci, c'est que le Seigneur aime son Église. Est-ce que l'amour du Seigneur impliquerait que l'Église doit passer par les jugements qu'il veut faire tomber sur la terre? Il semble que ce ne serait pas le cas. Il semble que ce ne serait pas le cas. Le rôle de l'Église est unique. Quand Dieu parle à Israël dans le livre d'Osée, il lui dit « Je t'avais fiancé pour t'épouser. » Et voilà. Tu étais infidèle, tu étais après des idoles. Et ça, on le voit dans Romains au chapitre 4 aussi. Et 5. 4. Tu étais après des idoles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jéhovah? Il est venu dans le monde, en Jésus-Christ, et il a offert le salut à toute la terre. Et maintenant, il y a un Israël de Dieu qui est composé de juifs et de gentils. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour exciter les Juifs à jalousie. Pour qu'ils deviennent jaloux. Que nous, les gentils, nous avons les mêmes privilèges, si ce n'est des plus grands qu'eux. Vous comprenez? Et alors, Dieu l'a fait parce qu'il les aime, parce qu'il aime son peuple. Et une fois que l'Église est repartie, le temps d'Israël recommence. C'est-à-dire que la relation avec le peuple d'Israël recommence, exactement comme c'était avant. Et si nous voulons aller dans les détails, nous pouvons aller dans le prophète Daniel, où nous voyons qu'il y a 70 semaines d'années, n'est-ce pas? Eh bien, sur ces 70 semaines d'années, il y en a 69 qui ont existé. Depuis le jour où il y a eu la transportation jusqu'au jour de la mort de Christ, à la Pentecôte. 69 semaines d'années. Et après ça, il reste encore une semaine d'années qui manque. Et cette semaine d'années, c'est exactement la longueur du jugement. Les 7 ans de jugement qui sera sur la terre. Et après ça, il y aura le royaume. Et la Bible est précise, elle donne des temps exacts. La seule chose qu'on n'a pas qui ne soit pas exacte, c'est quand le Seigneur va revenir. Quand est-ce qu'il va revenir? Bientôt. Voici, je viens bientôt. Soyons prêts. Alors, je vous exhorte, frères et sœurs, attendons notre Seigneur, veillons, faisons ce qu'il nous demande, et puis nous serons heureux tout, chaque jour. Parce que nous pouvons dire, eh ben voilà, si le Seigneur vient aujourd'hui, j'ai au moins fait ce qu'il m'a demandé de faire. Et on a bonne conscience. Par où est-ce qu'on commence? Par où est-ce qu'on commence? Le témoignage. Vous savez que Satan va se battre contre vous pour que vous ne trouviez pas le temps de le faire? Prenez le temps. Je vous encourage, prenez le temps. Écrivez ce témoignage. C'est le début, c'est la première chose. Et puis peu à peu, le Seigneur va vous donner d'autres choses à vivre. Prions. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour les pensées que ton esprit suscite, à moi en premier, et puis à nous tous. Oh, nous ne sommes pas forts. Nous n'avons aucune force, Seigneur. Nous dépendons entièrement de ton esprit, entièrement de toi, de ta parole, de ta sagesse, de toutes ces choses que nous devons apprendre. Mais nous voulons, Seigneur, te louer et te bénir parce que tu aimes ton épouse et tu la formes et tu la purifies et tu la chéris continuellement parce que tu veux son cœur, tu veux sa loyauté, tu veux son amour, tu veux être exclusif dans son cœur, tu veux être central, Seigneur. Oh, nous te louons, nous te bénissons. Parce que ton amour est si vaste, si merveilleux, qu'en toute chose nous le trouvons. Dans la nature, dans cette rencontre, dans la nourriture de tous les jours, dans notre santé, dans ta parole, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Merci Seigneur de ce que tu es là dans toute chose. Et nous te demandons que tu nous accordes de voir ces choses actuelles avec toujours plus de précision dans notre âme, afin que nous puissions ainsi mieux comprendre ce que tu cherches en nous. Accorde-nous, Seigneur, aussi de voir l'importance de ce témoignage, l'importance de la repentance, afin que ta grâce sois puissante par nous. Au Seigneur, nous te demandons, veuille bénir nos familles ce soir, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents. Veuille bénir, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas encore compris les voies du salut. Ô Seigneur, nous te supplions pour que tu ouvres des portes. Toi qui ouvres des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Ô Seigneur, nous te supplions ce soir pour que tu ouvres des portes vers ces personnes qui ont besoin de te connaître. Nous te demandons ces grâces au nom du Seigneur Jésus.